question dont la réponse en étonnera sûrement quelques-uns. Dieu éprouve-t-il ses enfants au-delà de leurs forces parfois? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse des plus encourageantes aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, pour vous qui écoutez nos émissions depuis le début de l'enseignement qu'on reçoit dans le livre de l'Apocalypse, je pense que vous ne serez pas surpris de recevoir un enseignement puissant et édifiant une fois de plus aujourd'hui. Et pour vous qui vous joignez à nous pour la première fois, eh bien j'ai le plaisir de vous annoncer que votre vie sera enrichie par la parole de Dieu à travers les prédictions de ce dernier livre de la Bible. Alors sans plus tarder, voici nos questions. Lors de la grande tribulation, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui n'auront pas accepté le sang de Jésus répandu pour eux? L'Église de Jésus-Christ traversera-t-elle la période de la grande tribulation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le jugement de la grande tribulation? Est-ce que le peuple d'Israël aura à subir les tourments de la grande tribulation? Dieu éprouve-t-il ses enfants au-delà de leurs forces parfois? Pourquoi permet-il des tribulations personnelles dans la vie des croyants? Pour quelle raison Dieu utilise-t-il des symboles dans le livre de l'Apocalypse? Comment se fait-il que 144 000 Juifs seront préservés pendant la grande tribulation? Restez à l'écoute, on est sur le point d'entendre tout un enseignement venant de la parole de Dieu, et ce, par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Merci Seigneur pour ce bon enseignement que tu nous donnes jour après jour. C'est avec reconnaissance qu'on te demande de disposer nos cœurs à bien recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui et aide-nous à le mettre en pratique pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, nous terminons aujourd'hui notre étude du chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. La terrible grande tribulation. À la dernière émission, nous avons vu une description inhabituelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, le gentil petit Jésus, qui ne ferait pas de mal à une mouche, ne constitue pas une description complète du Fils de Dieu tel qu'il est décrit dans la Bible et surtout dans le livre de l'Apocalypse. Car s'il est le Sauveur du monde, il est aussi le Juge du monde entier. Si vous n'acceptez pas son sang répandu pour vous, et si la grande tribulation survient pendant votre vie, c'est votre propre sang qui coulera. Au moment où la rébellion des hommes atteindra son point culminant, pendant la grande tribulation, le Seigneur reviendra, et il écrasera les rebelles comme des raisins mûrs. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Et un jour, vous devrez rendre compte de la décision que vous avez prise devant cette parole qui vous appelle à la repentance. Au chapitre 19 de l'Apocalypse, Jésus-Christ reviendra et mattra le soulèvement des rebelles pour ensuite établir son royaume sur toute la terre. Pour utiliser le langage du psaume 2, verset 9, « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Lors des derniers chapitres, nous avons vu à quel point la grande tribulation sera une époque terrible pour presque tous les habitants de la terre. Il y aura bien sûr une minorité de personnes, comme les deux bêtes, qui se serviront de leur pouvoir pour opprimer les gens. Mais pour l'ensemble, ce sera vraiment un temps de tourment. J'avoue ne pas comprendre comment une personne peut sincèrement croire que l'Église traversera cette période excessivement difficile de l'histoire humaine. Les gens qui semblent déterminés à faire entrer l'Église dans la grande tribulation semblent penser qu'il s'agira seulement d'un mauvais moment à passer, comme une visite chez le dentiste pour se faire extraire une dent. Une visite chez le dentiste pour une extraction n'est certes jamais plaisante, mais elle est quand même généralement tolérable. Or, la grande tribulation sera encore bien pire. Il ne faudrait pas sous-estimer la souffrance et l'angoisse de cette période particulièrement sombre. Le prophète Ésaïe nous la dépeint d'une manière particulièrement livide au chapitre 34, versets 1 à 3, ainsi que le verset 6. « Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra, et un grand carnage dans le pays d'Édom. Ce ne sera pas joli à voir. Le précieux sang de l'agneau aura été rejeté. Le sang de ceux qui l'auront rejeté coulera à son tour. Ceux qui auront défié Dieu en suivant et en adorant la bête seront jugés condamnés. Comme le jus d'un raisin écrasé gigle dans toutes les directions, les hommes tomberont dans la cuve du jugement de Dieu. C'est Armageddon, la montagne de la boucherie. Du sang partout. Apocalypse, chapitre 14, versets 19 et 20. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. « Jusqu'aux morts des chevaux » signifie un peu plus d'un mètre de profondeur. 1600 stades équivaut à environ 300 kilomètres. C'est la distance entre Dan et Beersheba. L'ensemble de la Palestine sera le champ de cette guerre finale, qui s'achèvera avec ce qui est appelé la bataille d'Armageddon. Cette campagne débutera vers la mi-temps de la grande tribulation, et elle connaîtra son dénouement lorsque Jésus-Christ reviendra physiquement sur la terre. Le psaume 45, les versets 4 à 8, contient une prophétie de cet événement. « Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. » Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Ce psaume est un psaume messianique. J'aimerais être clair sur un point. Je n'ai aucune excuse à offrir pour ces saintes sanguinaires de jugement. Je ne cherche ni à en diminuer, ni à en augmenter la portée. Dieu me demande simplement de transmettre sa parole telle qu'inscrite dans sa Bible. Il m'a donné le mandat de la publier, et nous sommes confrontés à quatre faits qui ne plaisent pas tout le monde. Les voici. Premièrement, le péché est une chose horrible. Deuxièmement, le péché infeste le monde entier. Troisièmement, nous sommes tous pécheurs, vous comme moi. Et le seul remède efficace contre le péché est la rédemption offerte par Jésus-Christ lorsqu'il a répandu son sang sur la croix et qu'il a payé la dette de nos péchés. Quatrièmement, nous méritons tous le jugement et la colère de Dieu. Notre seule planche de salut, si vous me permettez l'expression, est d'accepter l'œuvre de Jésus-Christ accomplie pour nous sur la croix du calvaire. Je ne me réjouis pas du fait que les impies auront à subir la colère de Dieu. Au contraire, je cherche à les préserver de ce triste sort en les prévenant. La seule issue. La Bible pose une question à laquelle personne ne peut répondre. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? S'échapper de quoi? Du jugement. Car la grande tribulation est un temps de jugement. Le seul moyen d'en sortir est de recevoir par la foi le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Vous pouvez appeler cela une échappatoire, si vous le voulez, mais quand la maison brûle et est sur le point de s'effondrer, je suis prêt à sauter par la fenêtre ou toute autre sortie d'urgence qui se présente. Le jugement de Dieu tombera inévitablement sur ceux qui auront rejeté Jésus-Christ. L'humanité, dans son ensemble, l'a rejeté. Elle a piétiné le sang de l'Alliance, en le considérant comme peu de choses. Si Dieu est juste, et il l'est, il jugera les rebelles. Notre génération a besoin d'entendre ce message sans chercher à le diluer avec des méthodes qui essayent de nous apprendre comment vivre chrétiennement. Rien ne sera plus efficace pour remettre notre vie sur le droit chemin que de connaître la sainteté de notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu de justice et il ne tolérera pas la présence du péché dans notre vie. Ce même concept devrait aussi être enseigné à nos enfants. Même dans le monde, les psychologues reconnaissent maintenant que les enfants doivent être encadrés. Après des années de délire qui ont produit un nombre incalculable d'enfants rois, ils reconnaissent que les enfants doivent apprendre à assumer la responsabilité de leurs actes aussitôt qu'ils en comprennent la portée. Avant de terminer ce chapitre, j'aimerais attirer une autre fois votre attention sur un point de vue concernant la grande tribulation que l'on retrouve très souvent même dans nos églises chrétiennes. Voici un spécimen de ce point de vue, pris dans une revue. J'ai le regret de dire que je ne peux pas du tout être d'accord avec la position de l'auteur. Voici la lecture de ce texte. Il existe un christianisme superficiel dans l'Église. Les personnes qui n'ont aucune racine profonde dans le Seigneur Jésus sont apeurées à l'idée que Dieu éprouverait son peuple pendant la tribulation ou qu'il utiliserait la souffrance pour aider l'Église à se préparer à devenir l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, la souffrance est très clairement le chemin vers la gloire. Nous sommes appelés à souffrir parce que Jésus aussi a souffert et il nous a laissé un exemple à suivre. Nous devons suivre ses traces. En conséquence, je n'enseigne plus aux chrétiens qu'ils n'auront pas à vivre la grande tribulation. Ce ne sera peut-être pas le cas, mais je peux faire davantage pour eux en les préparant à confronter l'épreuve au nom de Jésus qu'en leur enseignant que le Seigneur les épargnera à l'heure de l'épreuve. Un peu plus loin, dans l'article, il rajoute, et je tiens à le citer, « Le chrétien qui se revêt de l'armure complète de Dieu possède une énorme capacité de grandir qui le permet de tenir pendant le mauvais jour. » Une regrettable confusion. Le problème, c'est que la grande tribulation et un mauvais jour ne sont pas du tout la même chose. La grande tribulation est appelée le grand jour de la colère de Dieu. Voilà comment cette tribulation est décrite dans la Bible. Je ne vois vraiment pas comment on peut lire et étudier la Bible et penser que la grande tribulation purifiera l'Église. Que pensez-vous que Jésus-Christ a fait lorsqu'il est mort sur la croix? C'est lui qui a préparé son Église et qui l'a purifiée par son sang. Nous ne serons jamais dignes d'entrer en présence de Dieu, quoi que nous fassions. Nous nous présenterons devant lui en Jésus-Christ et personne ne peut rien y ajouter. C'est une erreur de confondre un temps d'épreuve avec le grand jour de la colère de Dieu qui viendra un jour sur la terre. L'Église sera exemptée de ce jour, comme le livre de l'Apocalypse l'enseigne clairement. Les 144 000 élus ont déjà été identifiés comme israélites, et l'auteur a même pris le soin de préciser qu'ils feraient partie de 12 tribus. À ma connaissance, Israël est le seul peuple identifié dans la Bible par 12 tribus. La position selon laquelle ce groupe pourrait être l'Église ou toute autre organisation est indéfendable. En plus de ces 144 000 Israélites, des représentants des autres nations recevront Jésus-Christ. Il s'agira d'une grande foule que personne ne pourra compter, pour reprendre l'expression d'Apocalypse chapitre 7 verset 9. Peut-être le fait de voir autant d'Israélites accepter leur Messie après plus de 20 siècles d'endurcissement fera réfléchir ceux qui ont reçu l'acuité spirituelle de voir Dieu agir dans les affaires du monde. Nous avons déjà vu que Dieu sera en mesure de préserver ses 144 000 qui lui appartiendront pendant la grande tribulation. La question n'est donc pas de savoir si Dieu pourrait garder son Église pendant la tribulation. Bien sûr qu'il pourrait le faire, si telle était sa volonté et son plan préétabli de toute éternité. Mais, selon la parole de Dieu, ce n'est pas le cas. De nombreuses promesses faites au peuple d'Israël ne se sont pas encore réalisées à ce jour. Quant à l'Église, le Seigneur Jésus lui a promis qu'il la préserverait de cette heure qui vient sur la terre, de ce terrible temps d'épreuve qui viendra au temps de la colère de Dieu. Un destin étrange et fascinant. L'Église n'aura pas à subir les tourments de la grande tribulation, mais Israël, oui. À cause de cette position, on m'a déjà soupçonné d'antisémitisme. C'est tout le contraire. Je l'ai déjà dit et je le répète. Un chrétien ayant vécu dans le confort durant toute sa vie terrestre ne pourra s'attendre à recevoir la même récompense de Dieu une fois rendu au ciel qu'une personne morte en martyr à cause de sa foi. Et cela s'applique à bien plus forte raison à un juif mort pendant la grande tribulation après avoir reçu Jésus-Christ. Il est un des 144 000. Dieu s'est donné la peine de compter ses privilégiés, tout comme il a donné à Israël la capacité à survivre malgré les pires persécutions à travers les siècles. La destinée d'Israël est étrange, et je ne prétends pas en connaître toutes les ramifications. Mais une chose est certaine. Dieu n'en a pas fini avec Israël et il n'a pas fini de nous étonner avec ce peuple. Dieu n'a pas voulu que l'Église passe par la grande tribulation, mais chaque chrétien passe à travers des petites tribulations. Nous avons tous nos épreuves et nos peines. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, est atteint d'un cancer et il a beaucoup souffert avant d'aller rejoindre le Seigneur. Mais pour lui, cela constituait une petite tribulation comparée à celle décrite dans l'Apocalypse. Dieu équipe chacun de ses enfants pour réussir la mission qu'il leur a confiée en les envoyant sur la terre. Il ne les éprouve jamais au-delà de ses forces. Cette promesse est inscrite noir sur blanc dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Elle constitue un des innombrables avantages à recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Car, après cela, le chrétien n'a plus à s'inquiéter de son avenir. Qu'est-ce que je vais faire si telle ou telle chose m'arrive? Si Dieu permet une souffrance ou un contretemps dans notre vie, il nous suggère également une issue, afin que nous en sortions grandis. Cela constitue une des principales clés de la paix en Jésus-Christ. Je ne connais pas de chrétien qui n'ait sa part de problèmes et de difficultés. J'irais même jusqu'à dire que souvent, plus un chrétien est mûr spirituellement, plus il souffre. Dieu utilise cette méthode pour développer et affermir la foi de ses enfants. Nous ne devenons jamais des super chrétiens. Nous sommes seulement des enfants de Dieu immatures et sous-développés. Et lorsque nous comparaîtrons devant lui, nous serons acceptés à cause de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et non pas parce que nous aurons subi la grande tribulation. Car nous vivons sous la grâce et non sous la loi. Un autre point à ne pas oublier, c'est que depuis presque 2000 ans, une partie appréciable de l'Église a raté la grande tribulation. Jusqu'ici, les chrétiens sont allés en présence de Jésus-Christ par la porte de la mort. Vous ne pensez quand même pas que Dieu les renverra sur terre afin qu'ils subissent la grande tribulation. Seul, un petit pourcentage de chrétiens seront encore vivants à l'aube de la grande tribulation et ils seront alors appelés vers Jésus-Christ sur les nuées. Une bonne partie des chrétiens auront déjà raté la grande tribulation parce qu'ils seront morts avant. J'ai toujours eu l'impression que les gens qui insistent pour faire passer l'Église à travers la tribulation pensent qu'elle en a besoin. En un sens, je suis d'accord. L'Église mérite assurément de subir la grande tribulation. Elle mérite également d'aller en enfer. Mais elle n'y ira pas, parce que Jésus-Christ a déjà subi la juste condamnation du péché à sa place et que chaque chrétien a reçu Jésus-Christ par la foi. De la même manière, aucun chrétien n'aura à subir la grande tribulation, parce que Jésus-Christ est mort pour lui et qu'il l'a sauvé par sa grâce. Et celui qui est riche en grâce peut délivrer chacune de ses brebis de la grande tribulation. Les petites tribulations. Il est vrai que Dieu permet certaines tribulations personnelles dans notre vie. Certains chrétiens ont souffert à cause de diverses maladies, d'autres à cause d'abus terribles. Mais à travers ces épreuves, Jésus nous accompagne, nous fortifie et nous fait espérer. Nous ne sommes jamais seuls dans notre souffrance lorsque nous nous tournons vers lui. Dieu utilise cette méthode pour nous purifier et nous raffiner comme le feu pour l'or au fond du creuset. Un chrétien fidèle et persévérant sortira amélioré et grandi d'une période d'intense souffrance. Pour le non-croyant, la douleur est absurde et intolérable. Pour le croyant, elle peut être utile, selon la mesure de sa foi. Dieu a toujours d'excellentes raisons d'agir comme il le fait envers chacun de ses enfants, même si elles nous échappent parfois. Ceux qui ne le connaissent pas, par contre, sont laissés entre les mains aveugles et sans compassion du destin, de l'astrologie, du karma, de l'évolution ou d'une autre croyance à laquelle ils se sont confiés. Il m'est arrivé de parler avec des gens qui tiennent à faire passer l'Église par la grande tribulation. À chaque fois, je suis étonné par leur nonchalance. Pour eux, cela semble une expérience à peine un peu désagréable, comme si l'Église devait endurer un été très chaud ou expérimenter une panne de courant électrique. Ils ne semblent pas être vraiment conscients de la gravité des souffrances vécues pendant cette terrible période. Dieu chercherait-il à nous lancer sur une fausse piste? Cherche-t-il à nous présenter une fausse idée de la réalité future? Essaie-t-il de nous faire peur? La raison des symboles. Dans l'Apocalypse, Dieu utilise effectivement des symboles. Nous sommes tous d'accord là-dessus. La question est de savoir pourquoi il utilise ces symboles. Quelle est son intention? Certaines personnes pensent qu'il le fait pour évaporer les faits afin de les rendre négligeables à nos yeux. Elles cherchent à diminuer l'impact de la réalité auquel le symbole fait référence. Je pense au contraire, que Dieu agit ainsi parce que la réalité derrière le symbole est encore bien pire que le symbole lui-même. Plusieurs événements décrits dans l'Apocalypse défient toute compréhension humaine, et à plus forte raison, toute description littéraire, malgré les remarquables et veillants efforts de l'apôtre Jean. Certains événements sont encore plus terribles dans leur réalité que les symboles utilisés pendant la grande tribulation. D'autres sont encore plus merveilleux, comme nous le verrons au cours des derniers chapitres. Dans l'Apocalypse, le symbole dépasse le réel. Le surnaturel est, si vous me permettez l'expression, plus grand que nature. Même Dieu ne peut pas nous le communiquer tel quel. Non parce qu'il en est incapable, mais à cause de notre entendement limité par l'ennuyeux handicap du péché. Nous sommes durs d'oreilles et de cœur, mais, comme il nous le dit souvent, que celui qui a des oreilles entende. Nous ne comprenons pas toujours, et je crains fort que plusieurs ne réalisent pas à quel point la grande tribulation est un événement horrible. Que les 144 000 soient préservés tient du miracle. Dieu n'en perdra pas un seul. Et pourquoi? Parce qu'ils seront gros, forts, robustes et intelligents? Non! Ils vaincront par le sang de l'agneau. Et tout comme eux, chers amis, aujourd'hui, nous pouvons vaincre le mal, nous pouvons vaincre le péché dans notre vie, toujours par le sang de l'agneau. Plusieurs textes des Saintes Écritures nous encouragent à vaincre le mal, non par nos propres forces, mais en plaçant notre confiance, notre foi, dans l'unique sacrifice de Jésus-Christ. C'est par le sang de Jésus que nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés, justifiés. Imaginez, c'est ce que nous pouvons tous expérimenter aujourd'hui, pendant cette période de la grâce que Dieu offre aux pécheurs. Reconnais que tu es un pécheur et accepte cette miséricorde, cette bonté de Dieu, cette grâce qui te pousse à la repentance, c'est-à-dire à confesser le péché et à accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel maintenant. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse chapitre 15, les versets 1 à 4. À vous tous, je vous souhaite bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Eh bien, c'est pas mal clair. L'Église de Jésus-Christ n'aura pas à passer par la grande tribulation. Mes amis, ce n'est pas la première fois que ça nous est enseigné depuis le début des messages dans le livre de l'Apocalypse, mais ça me semble de plus en plus clair pour ceux qui en douteraient. Et c'est vraiment réconfortant pour nous les croyants, n'est-ce pas? Mais on sait aussi qu'aujourd'hui, les croyants ont quand même à souffrir, à passer à travers de petites tribulations. Mais encore là, c'est encourageant de réaliser que Dieu n'éprouve jamais ses enfants au-delà de leurs forces, comme Régent nous l'a mentionné au cours de l'émission. Puis à ajouter aussi que si Dieu permet une souffrance ou un contretemps dans la vie du croyant, il offre aussi une issue afin qu'on en sorte grandi. Et tout comme Régent, je ne connais pas non plus de chrétien qui n'ait pas sa part de problèmes et de difficultés. Et ce qu'il a dit ensuite est particulièrement réjouissant. Il a dit que plus un chrétien est mûr spirituellement, plus il souffre et que Dieu utilise cette méthode pour développer et affermir la foi de ses enfants. Alors c'est bon, c'est vraiment bon d'entendre ça. Et personnellement, mes amis, je peux vous dire que je passe toujours par un temps de souffrance, surtout morale, quand Dieu me prépare à une nouvelle tâche qu'il veut me confier. Et avec un recul, je peux sincèrement lui dire merci, parce que c'est ainsi qu'il me rend réellement consciente que sans lui, je ne peux rien faire. Et quand je pratique l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour moi, voyant ma faiblesse, eh bien, je prie. Et je pourrais même dire que je crie à Dieu pour qu'il m'envoie son secours. Et une fois de plus, sa grâce me suffit, car sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse, telle qu'il nous l'enseigne dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 12. Et je ne peux pas faire autrement que de lui rendre toute la gloire qui lui est due. Alors toi, mon frère, toi, ma sœur en Jésus-Christ, si tu es présentement dans un temps d'épreuve, je te dis simplement, prends courage. Le Seigneur est là. Il est avec toi. Il est en train de faire une belle œuvre dans ta vie. Il est en train de te purifier, de te raffiner, comme Régent nous l'a mentionné aujourd'hui. Quel joyau tu vas être pour Dieu quand tu arriveras devant lui et qu'il te dira, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et toi, mon ami, es-tu de ceux qui ont été sauvés par la foi? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La Bible dit qu'on est sauvé par la foi et pour de bonnes œuvres. Donc, peu importe le bien que tu peux faire, ce n'est pas par ses œuvres que tu seras sauvé. Alors, mon ami, place ta confiance en Jésus seul pour le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Et ensuite, tu pourras accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Et tu pourras t'amasser des récompenses, des trésors dans le ciel, tel qu'il est mentionné dans le 6e chapitre de l'Évangile de Matthieu au verset 21, ou plutôt au verset 20. Alors, mon ami, viens à Jésus aujourd'hui. Demande-lui de te sauver. Demande-lui de devenir ton Seigneur, le maître de ta vie. N'essaie plus de diriger ta vie par toi-même. Laisse-toi diriger par ce maître qui est doux et humble de cœur.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143. Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.